Alors pour ce matin, je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean, qui sera ces quelques versets que nous allons lire. Ce passage sera un peu la ligne vertébrale de notre prédication de ce matin. Donc Jean 21, les versets 15 à 19. Jean 21, 15 à 19. Et c'est dans ce passage que le Seigneur va poser cette question à Pierre. M'aimes-tu? Question, toute simple, mais ô combien profonde en même temps. M'aimes-tu? Et c'est aussi un peu ce matin, je pense, la question que veut nous poser le Seigneur. M'aimes-tu? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Commençons par une petite anecdote, ce message. Au verset 15, il nous est indiqué « après qu'ils eurent mangé ». C'est le début du verset 15, « après qu'ils eurent mangé ». Et quel repas c'était le repas des retrouvailles. C'était un repas quand même extraordinaire, Jésus-Christ ressuscité, imaginez-vous, un Christ glorifié qui était là, qui mangeait tout simplement avec ses disciples, et il mangeait du poisson. Et juste avant, les disciples, une partie des disciples, en fait, ils n'étaient pas tous là, mais une partie des disciples avaient pêché toute la nuit sans rien trouver. La grosse galère. Et le matin, voici que le Seigneur arrive, et le Seigneur, il y a un pêcheur qui rigole, il sait ce que c'est quand on pêche rien, puis qu'on doit rentrer bredouille à la maison. Le matin arrive, le Seigneur est là et le Seigneur dit, jetez vos filets à droite et hop, pêche miraculeuse. Les disciples pourtant qui étaient jeunes, ils étaient dans la force de l'âge, il y en avait tellement dans le filet, ils n'arrivaient pas à ramener le filet dans la barque. Et c'était vraiment l'œuvre du Seigneur parce que quand notre Dieu nous bénit abondamment, il nous bénit richement, il nous bénit sans mesure. Est-ce que tu crois que ce Jésus-là, il peut te bénir de la même manière qu'il a béni ses disciples? Je le pense. Si on vient à l'église, c'est bien parce qu'on croit dans le nom du Seigneur, et c'est bien parce qu'on croit qu'on a aussi une bénédiction en réserve pour chacun de nos jours. Et même si parfois, il faut quand même bien le reconnaître, nous traversons des situations difficiles et douloureuses, ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas bénis de notre Père Céleste. Je reviendrai donc plusieurs fois sur ce passage central de Jean 21, et là, je vous propose une lecture dans l'Épître aux Romains, qui nous parle de bénédiction, mais qui nous parle aussi de souffrance. C'est un passage bien connu, Romains 8, 18 à 19. Romains 8, 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Paul estimait que les souffrances de son temps présent, de ce qu'il avait vécu, ne pouvaient être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. Paul a souffert. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas souffert. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas traversé les persécutions que lui a traversées que nous, on aurait eu une vie facile jusqu'à ce jour. Je pense que si là, on ouvrait un temps de témoignage, il y aurait beaucoup de témoignages de gens, ce qu'ils ont traversé, enduré. Peut-être que même maintenant, tu passes par des temps difficiles. Mais cette parole-là, elle est inspirée du Seigneur et cette parole-là, elle est une vérité pour hier, pour aujourd'hui et jusqu'au retour de notre Seigneur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Révélée ici, c'est le verbe apokalupto, qui veut dire découvrir, dévoiler, révéler, rendre manifeste. Rien ne peut être comparé, malgré les souffrances qu'on endure aujourd'hui, rien ne peut être comparé à la gloire qui un jour sera manifestée. Gloire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur cette terre et gloire qu'il manifestera au travers du temps du millénium, c'est-à-dire ce temps où véritablement son royaume sera pleinement et complètement présent, manifesté, révélé, rendu manifeste pour nous, ses enfants, ici sur cette terre. Verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création aujourd'hui, elle attend cette révélation. Ici, c'est le terme « apokalupsis », qui est en fait le mot, le substantif qui découle du verbe « apokalupto », qui veut dire aussi révéler, alors révélation, manifestation, dévoilement, apparition. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir l'apparition des fils de Dieu. La création, elle attend ce jour-là. Amen. Hein? Alors il y a des gens, ils attendent l'apparition des extraterrestres. Hein. Je ne sais pas si vous avez des fois vu des films là-dessus ou bien entendu même des émissions. Il y a des gens, ils sont convaincus. C'est les petits extraterrestres vers les petits lutins avec leurs antennes qui font bip bip et qui nous saluent de loin de leur capsule qui un jour vont venir apparaître et sauver ce monde. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, Dieu a bien plus qu'un petit être vert qui fait bip bip pour apparaître ici sur cette terre et pour manifester vraiment le projet que Dieu avait dès le commencement, parce que dès le commencement Dieu a créé les choses en 6 jours et le 7e jour Dieu s'est reposé de ses œuvres. Hein? Il y a encore un 7e jour. Et je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais je reviens un petit peu sur le sujet, parce que c'est tellement, la Bible est tellement truffée des promesses pour ce temps-là, et malheureusement, moi je remarque que souvent dans les églises, on parle peu du millénium, on parle peu de cette époque, de ce temps nouveau où nous régnerons avec Jésus-Christ. Alors je reviens un petit peu là-dessus, pourquoi? Parce que Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et cette gloire, elle se manifestera comment? Pour nous, Paul y dit, pour nous, pour l'époque il y a 2000 ans en arrière, Paul prophétisait déjà que cette gloire, elle serait pour nous, et cette gloire, elle est pour nous aussi aujourd'hui. Amen. Dieu va révéler cette gloire pour nous au travers de son Fils Jésus-Christ, et cette gloire, nous l'aurons aussi. Ainsi, la création attend-elle, elle soupire, pas après l'apparition des petits lutins verts, mais elle soupire après toi, après moi, après chacun d'entre nous, après chaque personne même qui nous ont précédés dans la foi, elle soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. parce que les choses seront complètement différentes. Ce sera un temps complètement nouveau. Ce sera le septième jour, le jour où enfin Dieu pourra se reposer de ses œuvres. Hein? Parce qu'il verra le projet qui était sur son cœur dès le premier jour, en créant cette terre et en créant ses enfants. Aussi, la création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, on voit que notre planète, elle va pas très bien. Hein? Tout est un peu pollué, vous l'avez certainement remarqué, l'air est pollué, l'eau est polluée, les aliments sont pollués. Qu'est-ce que l'homme n'a pas pollué? Et aujourd'hui, on tient un discours très écologique, hein? En faisant croire aux hommes que grâce à des nouvelles normes, alors je suis pas contre l'écologie, mais rappelons peut-être les choses, revenons peut-être un peu au centre. Si la Terre en est là aujourd'hui, c'est la conséquence du péché. C'est pas un programme écologique qui, tout à coup, comme ça, va faire des miracles et va tout rééquilibrer sur notre planète. La planète a besoin aujourd'hui de la révélation des fils de Dieu. Elle a besoin du retour du Seigneur. Ce n'est pas dire qu'on doit polluer en se disant ben, Jésus va revenir avant. Hein? Ce n'est pas ça mon idée. Mais comprenez bien que ce n'est pas un programme écologique qui va sauver cette planète. Si cette planète en est là aujourd'hui, si cette planète est polluée, c'est la conséquence avant tout du péché de l'homme. Et aujourd'hui, l'homme va justifier au nom d'un réchauffement planétaire que toutes les catastrophes qui vont arriver, alors qu'ils seront vraiment aussi un jugement comme venant du Seigneur, une alarme venant du Seigneur, les gens vont dire « Ah, mais c'est le réchauffement planétaire !» Et hop, on passe ça par-dessus. C'est pas parce que l'homme est pécheur, c'est pas parce que l'homme est loin de Dieu, c'est parce que voilà, il pollue et puis tout le climat est complètement déréglé. On a la belle excuse pour oublier le Seigneur, alors que des fois, peut-être en effet, hein, il y a des tempêtes, il y a des ouragans, il y a des tremblements de terre. Nous croyons que c'est les choses, ce sont juste les prémices de l'accouchement. Et les gens vont se cacher derrière un réchauffement planétaire et puis se donner bonne conscience. Il suffit qu'on diminue un tout petit peu, qu'on achète un aspirateur à 900 watts, voyez-vous, hein, ça c'est la nouveauté. On veut plus des aspirateurs au-dessus de 1000 watts parce que ça consomme trop d'électricité. Donc, mesdames et messieurs, lâchez vos aspirateurs et repassez au balai parce que vous êtes des grands pollueurs et la planète sera sauvée grâce à ça. Alléluia. Hein, vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Moi, je crois qu'on a besoin du retour du Seigneur et qu'on a besoin de la révélation des fils de Dieu. Et c'est pas quelque chose qu'on fera par nous-mêmes. Hein. N'essayez pas de rentrer dans cette apparition-là, dans cette manifestation-là, par vos propres forces. Ça se fera seulement avec le retour de notre Seigneur en gloire. Alors, rien ne pourrait être comparé aux souffrances du temps actuel. Amen. Nous sommes les héritiers des plus grandes promesses, des plus grandes bénédictions que ce monde peut recevoir. Tu as quelque chose de bien plus précieux que même les plus grands de ce monde n'ont pas. Tu as les promesses du royaume de Dieu. Et nous devons fixer nos yeux sur ces promesses-là parce que ça va nous aider dans les temps difficiles et parce que ça va nous faire réaliser combien le Seigneur nous aime. Pierre, m'aimes-tu? Et nous, si le Seigneur ce matin nous posait cette question, comment est-ce qu'on pourrait y répondre? Difficile, hein, quand même, cette question. Elle nous met face à nos propres manquements, elle nous met face à nos faiblesses. Et rappelez-vous, pour Pierre, ça devait être difficile. Il était en train de vivre ce repas extraordinaire. Là, le Christ crucifié, le voici ressuscité. Ils avaient dû passer par des temps, mais de découragement terrible. Hein? Jésus, ils avaient mis leur confiance en lui, et voici qu'il est mort, mais pas entouré entre deux brigands comme le dernier des hommes. Ça a dû être terrible. Et en plus, ce Pierre qui était plein de foi, plein de conviction, voilà-t-il pas qu'il a renié le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Et Pierre était là, avec toutes ses faiblesses, toute sa fragilité, toute son inconstance. Alors qu'il s'était engagé à suivre le Seigneur, la nuit même où il a été livré, voici Pierre qui prend la fuite. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci ? Va dire même le Seigneur. Et Pierre va répondre, tu le sais. Mais il ne va pas dire, je t'aime bien plus que tous les autres. Hein. I am perfect, je suis parfait. Non, Pierre va dire, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime, même si je ne suis pas parfait. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur va dire, paix mes petits agneaux, paix mes brebis, prends soin de mes enfants. Si tu m'aimes, alors oui, tu peux être mon serviteur. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et face à cette question, je pense qu'aucun d'entre nous on pourra dire à 100% « Seigneur, je t'aime d'un amour parfait. Hein. » Aucun de nous. Chacun d'entre nous, on connaît nos limites. On connaît la dernière fois quand on s'est énervé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dernièrement. Hein. Peut-être que vous êtes énervé, mais ce n'était pas la gloire du Seigneur. Je ne sais pas. Hein, je ne veux pas vous juger. En tout cas, ça m'arrive. On sait qu'on n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous aime et le Seigneur a posé des promesses et des bénédictions extraordinaires sur nos vies. M'aimes-tu ? Et parce que Pierre a pu répondre « Oui, Seigneur, je t'aime », alors le Seigneur va lui dire « Suis-moi, suis-moi ». Parce que sans l'amour qu'on peut porter en direction du Seigneur, ce sera impossible de le suivre. Sans l'amour de Dieu, sans l'amour qu'on a pour notre Dieu, ce sera impossible de suivre le Seigneur. Et on doit l'aimer par-dessus tout et au-dessus de tout. Il doit avoir la première place dans nos cœurs. Amen. Autrement, ce sera impossible de le suivre sur le chemin qui sera étroit. Le Seigneur, il a promis que le chemin sera étroit. Il n'a pas fait la promesse d'un chemin large. Et un chemin étroit, c'est un chemin qui est difficile. C'est pour ça que nous avons besoin de l'amour du Seigneur, parce que lui nous a aimés le premier. On ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour de Dieu, si ce n'est qu'on l'a reçu au premier. Il l'a révélé dans nos cœurs, il a fait comprendre que nous étions bel et bien ses enfants, que c'est lui notre Créateur, que c'est lui qui nous a désirés dès le premier jour de notre vie. C'est lui qui était aux commandes et c'est lui qui a porté ses regards pleins de tendresse. L'amour humain, l'amour passe, mais l'amour du Seigneur, jamais. Hein. Il est dit, l'amour demeure. L'amour demeure. C'est quelque chose qui demeure. Le Seigneur, il a un amour sans limite. Il ne va pas nous aimer un temps, puis après arrêter. Oui, si on se détourne de lui, ça c'est autre chose. Et si on le renie complètement, ça c'est encore autre chose. Mais l'amour du Seigneur est là. Comme un père aime ses enfants, notre Père nous aime, chacun d'entre nous, et là je vous vois tous, là, c'est merveilleux de se dire le grand amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être jaloux, hein? Chacun d'entre nous, Dieu nous aime. Et c'est parce que nous savons que Dieu nous aime que nous pouvons l'aimer en retour et que alors nous pouvons le suivre. Mais parfois il y a des choses, et on va regarder un petit peu ça, qui vont nous refroidir dans l'amour du Seigneur. Comme Galates 5, verset 7 à 9. Galates 5, verset 7 à 9. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Et des fois, c'est vrai, on a couru pour le Seigneur et tout d'un coup, on était comme arrêté dans notre passion pour lui. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul ici parle de quel levain? De celui qu'on met dans la farine? Bon, je pense que vous avez compris, hein? C'est symbolique. C'est un autre levain. C'est le levain des pharisiens. C'est le levain, dit en d'autres termes, le levain des légalistes. Et les légalistes, c'est quoi? C'est des gens qui redonnent plein d'ordonnances supplémentaires en dehors de ce que nous demande la Bible, pour comme si on les suivait, comme si ainsi on allait être plus sanctifié, et comme si en faisant cela, on allait avoir l'impression que Dieu nous aime plus. Et c'est un peu le danger que couraient les gens de Galates. Ils ont eu des gens qui sont venus les enseigner, c'était des judaïsants, c'est-à-dire c'était des gens qui voulaient forcer l'Église à revenir dans les traditions de la loi juive. Hein? Et aujourd'hui, on peut trouver des judaïsants aussi dans nos églises. C'est des gens, par exemple, ils vont respecter le sabbat. Hein, pour eux, le jour du Seigneur, le jour du repos, c'est le sabbat. Ils reviennent dans l'ancienne alliance où ils ne vont pas manger du porc, parce que voilà, c'est des choses qui sont demandées dans l'Ancien Testament. Ils reviennent dans l'ancienne alliance où ils vont respecter les fêtes juives. Ils reviennent dans l'ancienne alliance. La coupe que nous bénissons, c'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est pas la coupe de l'ancienne alliance. On va pas se remettre sous la coupe de l'ancienne alliance. Parce que c'est une coupe qui ne peut pas délivrer l'homme. La loi par elle-même n'a aucune puissance. La loi n'était qu'un précepteur qui nous dirigeait en direction du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous avons la loi qui va nous enseigner que nous comprenons que sans Jésus, on peut rien faire. Hein? Parce que si on revient à la loi, alors à la limite, on est aussi des musulmans. Les musulmans aussi, ils ont leur loi. Et puis on pourrait se dire, ben voilà, on est sauvé par la loi. Ben non, on sait bien que le salut, il est en Jésus-Christ. Que la loi, elle nous conduit vers le Seigneur. Et même on pourrait s'imaginer que pour un musulman sincère, à un moment donné, qui va suivre la loi, qui est imparfaite hein, dans l'islam, mais il va bien se dire, il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Je suis toute la loi là et je ne suis pas en paix. Hein? Un musulman sincère, moi je me dis peut-être qu'à un moment donné, il se tourne vers le Seigneur, parce qu'il comprend que le salut n'est pas dans la loi, que le salut n'est pas dans les œuvres, que le salut ne se mérite pas par nous-mêmes, parce qu'on est tellement imparfait, comment est-ce qu'on pourrait se sauver soi-même? Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils reviennent dans l'ancienne alliance. Et ça, c'est quelque chose qui va te refroidir dans l'amour du Seigneur. C'est un levain qui va faire lever toute la pâte. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la force. La force, c'est dans la croix. La force, c'est dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi et pour moi. Jésus, c'est le seul qui a vaincu la mort. Extraordinaire. Comment est-ce que nous, on pourrait vaincre la mort? Bonne chance. Bonne chance, hein? Bonne chance si on devait vaincre la mort par nous-mêmes. Vous vous rendez compte, là, la pression qu'on aurait ce matin? Hein? J'ai une épreuve qui m'attend à la fin de ma vie. Je dois vaincre la mort par moi-même, par mes mérites, par mes obéissances, par mes sacrifices. Hein? Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi. Amen. Amen. On ne va pas se remettre sous le joug de cette ancienne alliance. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. En Jésus-Christ, il y a l'accomplissement de la loi. Et nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, régénérés par notre Sauveur, à rentrer étape après étape, petit pas après petit pas, mais aussi pleinement par la grâce du Seigneur, appelés à entrer dans cette sanctification que Dieu nous donne. Donc ils ont l'apparence de la piété, les légalistes, mais ils en renient la force, c'est-à-dire la croix. Ils peuvent avoir un discours très religieux, mais c'est un discours qui est centré sur l'homme et qui est plus centré sur le Seigneur. Par exemple, ça, désolé, mais c'est aussi du légalisme. La personne qui se croit convaincue que Dieu va la guérir, dernièrement encore, j'ai entendu le témoignage d'une personne qui me disait, elle a une de ses connaissances, convaincue que Dieu va la guérir du cancer, cette personne, alors elle a décidé de ne prendre aucun traitement à la contre, alors que c'est un cancer aujourd'hui qui se guérit quand même. Voilà, c'est un cancer connu et il y a des traitements vraiment efficaces à la contre. Mais la personne est convaincue que Dieu lui a donné une promesse, hein, que la guérison viendra. Alors moi, je suis désolé, mais là-dessus, je dois dénoncer. Ça, c'est pas une promesse du Seigneur, hein. C'est une promesse qui vient, soit elle se l'est formulée toute seule dans la tête, ou soit elle vient carrément du diable. Parce que Dieu va pas te mettre au défi de mettre ta vie en danger pour témoigner que tu es bel et bien un chrétien convaincu. Ça, c'est pas de la foi, c'est de la folie. Je crois en un Dieu qui guérit, mais si Dieu t'a guéri, alors tu iras chez le médecin, puis le médecin, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est extraordinaire! Mais j'en reviens pas, je comprends plus toutes mes études scientifiques, là, en médecine, tu es guéri. Hein? Ça, c'est la guérison de le Seigneur. Dieu va pas te mettre à l'épreuve de dire, ne prends pas ce traitement, je vais te guérir, je vais te témoigner ma puissance. Et ça finit comment? Avec un cercueil et six planches. Mais voilà, hein, on connaît des situations comme ça autour de nous. Ça, c'est pas de la foi. Quel témoignage! Si les gens de l'extérieur croient que ça, c'est de la foi, ils vont se dire, ben, il est fou! Hein, il me dit d'aller à l'église et il se laisse mourir, là, en disant que Dieu va le guérir. C'est quoi cet allumé? En effet, c'est un allumé. C'est pas un témoignage de la sagesse et de la puissance de la résurrection de notre Seigneur. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. La force, c'est la croix. C'est d'accepter, on a souvent entendu des messages, hein, sur la croix, c'est d'accepter les souffrances, d'accepter ce que nous endurons. Et ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Dieu a toujours un chemin. Mais que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alors attention à ces mauvais levains qui ne manquent pas dans les temps que nous vivons, car nous risquons, si nous en mangeons, de perdre notre passion pour le Seigneur à cause des déceptions vécues. Hein? Parce que ça nous met vraiment porte-à-faux en dehors de la volonté du Seigneur, ce levain-là, en croyant qu'on a reçu des grandes révélations, et puis ça va nous décevoir, ou ça peut même nous conduire à la mort, et ça va décevoir aussi les gens qui nous entourent. Parce qu'on va se dire, mais c'est quoi? J'ai manqué de foi, j'ai manqué de prière, j'ai manqué de jeûne, j'ai manqué de proclamation, j'ai manqué de chanter à mon Dieu combien il était grand. Non, si Dieu guérit, Dieu guérit. Ça peut se passer tout simplement ce matin au travers de la Sainte Seine. Tac! Oui, je crois en ta guérison, plein de doutes, et paf, la guérison arrive. Hein? Dieu n'a pas besoin de gens hyper convaincus pour guérir. J'y crois pas, hein. Souvent, on va juger les gens. Hein. Ah, bah, t'as manqué de foi. Voilà, c'est pour ça. Non, peut-être t'as manqué de discernement, parce que t'as cru que Dieu te parlait, et même si c'était un grand serviteur du Seigneur, hein, t'as cru que Dieu te parlait au travers de ce grand serviteur, mais en fait, c'était la confusion qui est venue sur ton cœur. Que Dieu nous protège, que Dieu nous préserve de ce mauvais levain. Ainsi, ce matin, nous aurons parlé de l'amour de Dieu, témoigné par sa fidélité jusqu'à la mort. Témoigner aussi au travers des grandes promesses qui nous attendent pour son règne, parce que nous sommes appelés à régner avec lui. Et nous, face à cet amour, comment allons-nous répondre? Qu'allons-nous répondre si le Seigneur nous pose la question « M'aimes-tu ?» Lui qui connaît toutes choses, hein? Comment allons-nous répondre à cette question? Et parfois, il y a des choses qui nous retiennent dans cet amour. Les choses difficiles que nous avons peut-être traversées, les souffrances, les temps de désert, mais aussi les temps de légalisme, et les temps aussi où peut-être on a oublié les promesses de Dieu pour nos vies, parce que Dieu a des promesses pour toi, aujourd'hui. Dieu te promet d'être là jour après jour jusqu'à son retour. Ça, c'est une promesse déjà extraordinaire. C'est pour le présent. C'est de ce que tu puisses te réjouir. Dieu est là à tes côtés, jour après jour. Et puis tu verras dans les petites choses, peut-être un témoignage de la présence du Seigneur. Ben, tu peux voir dans les grandes, t'as qu'à regarder autour de toi, c'est lui le créateur de la terre et des cieux. C'est lui qui a créé ces milliards de milliards de milliards de milliards de planètes, hein, qui se promènent dans un univers où on ne peut même pas le sonder, tellement il est grand. Et tout est dans un ordre voulu par le Seigneur. Extraordinaire, non? Si vous croyez que ceci, c'est dû au hasard, En me disant, vous êtes un grand scientifique, hein. Faudra m'expliquer comment tout ce hasard fait que ça fonctionne, hein. Des milliards de milliards de milliards de planètes et un seul endroit où il y a de la vie, ça s'appelle la Terre. Extraordinaire, non? Un soleil qui nous réchauffe, une pluie qui est là, et bien sûr des cataclysmes aussi, mais qui sont peut-être le signe de la fin des temps. Mais si on peut un petit moment contempler la grandeur de notre Dieu, contempler son amour pour chacun d'entre nous, amen. Simplement dans une petite fleur, ou dans un paysage qui va nous émouvoir, ou dans un signe de bonté d'une personne qui nous entoure. C'est bien là le signe de l'amour que le Seigneur a pour nous. Mais si on attend qu'on doit être tous des super-héros de la foi, hein, vaincre les lions et je ne sais pas quoi encore, ouais, mais quand on va dans certaines églises, on met la barreau, hein. Hein, parce qu'il y a des orateurs, ils ont vécu des choses, ils avaient de l'eau dans une citerne et c'est devenu du pétrole. J'ai entendu ça une fois, hein. Le gars il a pu se chauffer gratuit, sa citerne était miraculeusement à nouveau remplie de mazout. Hein. Permettez-moi de douter du truc. Ah ben Dieu peut le faire, mais permettez-moi un peu de douter, parce que quand on est dans ce mouvement-là, il faut toujours des choses plus grandes. Hein. Toujours des miracles plus grands. Puis l'homme, il est qu'un homme, et pour finir, il dérape. Sachons reconnaître le Seigneur dans les petites choses qu'il nous donne, jour après jour, sa présence dans nos vies. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui règnes, Seigneur, et c'est ce que nous voulons proclamer sur cette terre, mais sur chacune de nos vies. Seigneur, nous proclamons ton règne, nous proclamons ta bénédiction, nous proclamons ton amour, nous proclamons ta justice, nous proclamons ta rédemption. Seigneur, si nous sommes tombés, si nous avons péché, c'est toi qui nous relèves encore ce matin. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer sans ta grâce. Nous ne pouvons pas avancer sans ta puissance. Tu es là dans chacun de nos combats, Seigneur. Tu nous rendras plus que vainqueurs avec toi. Seigneur, oui, nous voulons persévérer sur le chemin de la foi, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés, qui un jour avec toi régneront sur cette terre. Et nous aspirons, Seigneur, et nous attendons ce jour de la révélation de ton Fils, de chacun d'entre nous aussi, Seigneur, parce qu'un jour nous serons glorifiés avec toi sur cette terre et nous vivrons un temps tellement différent que celui que nous endurons ce jour. Seigneur, merci pour ces grandes promesses que tu as posées sur chacun d'entre nous. Que tu puisses nous parler en cette heure et dans les jours qui viennent, afin que par la foi nous puissions encore saisir les grandes bénédictions que tu as mises sur chacune de nos vies. Que nous puissions nous réjouir aussi des choses toutes simples qui chaque jour attestent que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas orphelins sur cette terre, mais que tu es présent dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta délivrance à la croix. Et merci, Seigneur, parce qu'un jour, nous savons que tu reviendras. Oh, quel jour glorieux, Seigneur. Et que tu puisses nous garder du pharisianisme, nous garder du légalisme, nous garder de tous ces enseignements, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, mais qui nous détournent de toi. Donne-nous la sagesse, Seigneur, afin que nous puissions marcher encore humblement sur la terre des vivants. Seigneur, déverse ta pluie, déverse ta grâce sur chacun d'entre nous, que nous puissions courir à ta suite, que nous puissions t'aimer encore avec passion, parce que oui, il n'y a rien de plus beau sur cette terre que de te suivre. Amen.